Com. Ouellette,
en direct. En direct, avec JC.
Ouais, moi, je l'adore.
Et Patricia.
Continue dans ce sens-là, on va aller loin.
Radio X.
On a quand même beaucoup parlé de Tylenol cette semaine.
Oui,
accessoirement.
Non, mais il y a comme eu un genre de scandale ici, non?
Oui. Ben, tu sais, c'est parce qu'on parle d'autisme, mais je trouve que c'est quand même particulier. Puis oui, on va y revenir sur l'histoire des Tylenol. On a une invitée justement pour en parler. Mais plus at large, je trouve qu'on n'a jamais parlé autant d'autisme, mais via les Tylenol. Tu sais, ça a pris quand même cette histoire-là.
Ouais, c'est vrai.
S'il y a quelque chose de positif, ben écoutons, c'est qu'on aura parlé de ça. On aura parlé de cette condition-là, l'autisme, qui, tu sais, j'allais dire qui frappe. C'est pas une maladie, c'est pas contagieux, c'est quelque chose qui arrive, on dit que c'est un état, on dit que c'est une condition. Puis même là, tu vois, je parle, puis je me dis, arrête de parler et va poser toutes ces questions-là à ton invité. Elle est doctorante en recherche et intervention en psychologie clinique à l'UDM et elle a un post-doctorat à l'Université McGill portant sur le développement des méthodes inclusives en autisme, justement. Et c'est de ça dont on va parler avec Dr Valérie Courchaine qui est là. Bonjour, docteur.
Oui, bonjour. Et je veux juste spécifier, je suis professeur à l'Université de Montréal, en fait, maintenant, au département de psychologie. Mais bon. C'est tout vrai ce que vous avez dit, mais c'est...
Ah. Bon, parfait. Ça en rajoute sur votre CV, c'est excellent. Ça veut dire que j'ai la bonne personne pour en parler. Bien, d'abord, on va établir les bases. Puis oui, Tylenol, mais c'est accessoire, on va y revenir. L'autisme, c'est quoi? J'ai l'impression qu'il y a bien du monde, puis je vais même m'inclure, là, qui marche un peu sur des œufs. C'est une maladie, c'est un état, c'est une condition. Comment on décrit l'autisme?
Oui, bien, dans le domaine, ce qu'on dit, c'est oui, c'est une condition neurodéveloppementale. Donc, ça veut dire que le cerveau, vraiment, là, dès la naissance, est différent, est organisé différemment. Donc, c'est quelque chose... On est autiste, puis on meurt autiste, là, dans le c'est le concept de neurodéveloppement.
Bon, mais ce qui mélange les gens, peut-être, des fois, c'est qu'on a, des fois, on a l'impression, puis moi, j'ai vécu ça, là, quelqu'un que je connais, puis qui est dans la cinquantaine, puis qui me disait, hey, tu sais pas quoi, j'ai appris que j'étais autiste. Tu sais, fait que là, tu te dis, ben, mon Dieu, mais comment ça t'est arrivé? Tu sais, as-tu mangé quelque chose? Non, mais c'est vrai. Donc, c'est une condition qui est là dès la naissance, mais qui se développe ou pas, ou qui est là, mais qu'on s'en rend pas compte?
Oui, c'est ça. Ben, dans certains cas, c'est qu'avant, on faisait moins de dépistage, les critères diagnostiques étaient moins larges aussi, il faut savoir. Hein? Avant, les autistes, c'était juste comme un petit cercle très restreint, puis maintenant, on a comme agrandi ce cercle-là. Les critères sont de plus en plus larges, ce qui fait que de plus en plus de personnes, on les considère comme étant dans le cercle, si on veut.
Ouais.
Alors qu'avant, c'est un peu différent. Puis donc, c'est des gens qui probablement avaient ces traits-là depuis l'enfance. Mais ça avait passé inaperçu pour une raison ou une autre. Souvent, c'est des gens donc qui n'ont pas de déficience intellectuelle, bien sûr, qui fonctionnent relativement bien et tout ça. Donc, ils n'ont jamais été confrontés à des situations qui auraient fait qu'ils se seraient ramassés avec un diagnostic, finalement.
Puis d'ailleurs, c'est ce qui vient un peu, puis je m'explique, mais c'est ce qui vient un peu brouiller l'information, c'est que moi, je fais des recherches, je regarde tout ça, puis là, je vous donne des chiffres, puis après ça, je vous laisse. Probablement qu'une bonne partie de la réponse, vous l'avez un peu donnée. Mais je regarde, je fais une recherche sur, mettons, l'autisme à travers les décennies. Et là, je réalise que, admettons, dans les années 70, aux États-Unis, on disait qu'il y avait une prévalence à l'autisme estimée à un citoyen ou un humain sur 5 000. Donc, on était dans le 0, quelque chose de très rare, là, 0,02%. Ouais. Dans les années 80, une décennie plus tard, on tombe à 1 pour 1000 à 2000. Donc, déjà, on augmente énormément. Là. C'est presque le double. Dans les années 2000, 1 pour 150. Dans les années 2020, 1 pour 36. Et là, aux dernières informations que j'ai, 2022-2025, on parle de, dans les pays, disons, de l'Occident, là, 1 pour 31. Là, on vient de tomber à 3,2% chez les enfants de 8 ans, selon les données les plus récentes du CDC. Donc, là, on a l'impression, si on regarde ça là, à chaud et qu'on ne connaît pas le sujet, on a l'impression qu'il y a une épidémie. Là. On se dit, OK, là, c'est en train d'exploser. Ouais. Comment ça se fait qu'il y a autant d'autistes? Mais vous avez un peu donné la réponse. C'est que c'est un autiste de 1970, c'est pas la même définition. Là.
Non, exactement. Donc, déjà, quand on regarde ces données-là, on voit qu'avec le nouveau DSM, là, c'est le manuel ça, qu'on utilise pour faire les diagnostics en psychiatrie, en santé mentale, tout ça. À partir de 2013, il y a eu une nouvelle version avec des critères donc élargis. C'est à partir de là qu'on a commencé à parler du spectre autistique, hein, qu'on a ramené tout ça dans un seul spectre. Et on a élargi les critères. Donc, à partir de là, là les chiffres augmentent encore plus rapidement là, quand on regarde les données épidémiologiques là, que vous venez de nommer.
Mais est-ce qu'ils se valent là... tous? Parce que, je veux dire, moi, l'ami qui m'a dit, tu sais pas quoi, je suis rendu autiste, lui, je veux dire, il a une job, il a une voiture, il fait ses paiements d'hypothèque, il boit du vin avec ses amis. Il est très autonome, là, il vit une vie très normale, mais coudon, il est autiste, tu sais. Est-ce que ça vient pas un peu diminuer, ce grand spectre-là, l'importance de ceux qui ont une condition sévère de l'autisme?
Exact, c'est ça. Il y a beaucoup d'hétérogénéité, là, c'est-à-dire que deux personnes autistes peuvent être complètement différentes puis fonctionner complètement différemment. Puis ça, c'est un peu un effet secondaire de l'élargissement de ces critères-là. Donc, il y a certaines personnes qui disent, ben non, mais il faut les resserrer un peu, ces critères-là. Sauf que c'est touché, si on veut, dans nos sociétés, parce que les services sont associés au diagnostic. Ouais. Donc, il y a aussi ça qui contribue à faire en sorte que quand on a quelqu'un un petit peu sur la ligne, mais qui a plein de difficultés, ben on se dit, ben au moins, ça va l'aider, tu sais. Donc, il y a des dérives, il y a du surdiagnostic, certainement. Donc, il y a des taux, des fois, là, qu'on voit dans certaines cliniques ou endroits dans le monde où on se dit... C'est bizarre, là. C'est trop. Il y a beaucoup de faux positifs, si on veut.
Puis il y a de l'argent. Puis vous allez peut-être me dire non, ça ne marche pas de même. Mais je veux dire, quand on veut se faire financer des recherches, quand on veut. Mais c'est sûr qu'on se base sur ces chiffres-là pour dire regardez, c'est important, il faut porter attention. Il y a plusieurs choses qui font en sorte qu'on peut avoir un côté positif, je vais le dire de même, pour certains, d'en mettre plus que le client demande, non?
Ben oui, il y a une certaine... Puis, en fait, ce que j'ajouterais, c'est qu'il y a pour beaucoup de gens qui s'identifient eux-mêmes comme autistes, par exemple, ben maintenant, c'est un peu moins stigmatisant d'être autiste que d'avoir d'autres types de diagnostics psychiatriques. Hein. Fait que ça peut des fois dire, mais peut-être que c'est ça qui explique ma souffrance, puis le fait que je me sens pas à ma place, puis je me sens différent. Donc, il y a aussi cette dérive-là qu'on voit... ou beaucoup de gens qui ont peut-être d'autres conditions, et peut-être de l'autisme aussi, là, tu sais, qui se fichent pour leur dire qu'ils sont pas autistes, mais plus ils vont aller chercher des réponses puis des diagnostics, puis chercher dans cette voie-là, puis ben parfois obtenir un diagnostic qui soit réel ou non, tu sais. Ouais. Donc,
mais ils s'aident pas, là, parce que là, je veux dire, si on se dit, ah, ben c'est ça, puis qu'on s'appuie là-dessus et qu'il y a autre chose, on arrête de fouiller, là.
Oui, ben c'est ça. Ça peut avoir des effets positifs, des effets négatifs. T'sais, des fois, bon, ils vont quand même pouvoir sentir qu'enfin, il y a une réponse ou que là, ils ont une communauté qui peuvent, tu sais, que ça peut alléger certaines souffrances. Mais d'un autre côté, si c'est vraiment, c'est comme la mauvaise réponse, entre guillemets, puis que c'est pas ça le problème, ben il risque d'y avoir encore là, des difficultés, puis ça va peut-être pas répondre à tous les besoins, mettons. On va dire ça comme ça.
Quelqu'un dit, moi, je suis sûr que je suis autiste, mais dans le temps, il disait juste que j'étais un petit CRISS, là, tu sais, fait que c'est ça, là. Dans le temps. Est-ce que c'était ça? Parce que ça, j'entends ça souvent. Ah, avant, les autistes, on disait juste des petits tannants, des petits fatigants, tu sais, c'est... Je sais pas, moi, je pense qu'il y a encore des petits fatigants qui sont pas nécessairement autistes, là.
Ouais, non, c'est ça. Je pense qu'il faut pas nécessairement faire ce raccourci-là. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que on dépiste maintenant tous les enfants. Tu sais, au Québec, on fait un dépistage systématique de tous les enfants, là, avant en même temps qu'on fait des vaccins avec Agirto, CLSC, tout ça. Donc, on fait un screening systématique, c'est-à-dire c'est sûr qu'on va en attraper beaucoup plus qu'on en attrapait avant.
OK. Maintenant, OK. Allez-y, je
vous laisse finir. Maintenant, on fait ça. Puis, l'élargissement des critères, comme je vous disais, fait en sorte que ça aussi, ça contribue.
OK. Maintenant, les Tylenol. Non, mais je n'ai pas le choix de poser la question. Ça a été le sujet de la semaine. Là, puis je dois dire que pour avoir fait des recherches, puis moi, je fais attention parce qu'il y a Donald Trump impliqué dans l'histoire. Donc, aussitôt que Donald Trump dit quelque chose, pour certains, tout est vrai. Pour certains autres, tout est faux. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre la parole puis aller vérifier des trucs. Et effectivement, quelle ne fut pas ma surprise de réaliser qu'il y a quand même plusieurs études là, qui ont été faites avec des noms d'universités qu'on connaît de renom, Harvard, puis Mount Sinai, puis des organismes de recherche, puis sur ce point précis-là, est-ce que, je vous pose la question très ouverte, est-ce que les Tylenol ont un rapport dans l'histoire?
Non. Fait que la réponse simple, c'est non. Il y a les meilleures études dans les meilleurs journaux avec la meilleure rigueur. Là, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais dans le fond... quand on fait une étude comme ça, il faut contrôler pour toutes sortes de variables qui peuvent venir brouiller nos résultats, si on veut. Puis, une des meilleures études qui a été publiée là, dans JAMA, qui est un journal très, très, très prestigieux et sérieux et tout ça, c'est une étude sur plus de 185 000 femmes qui ont pris du Tylenol pendant leur grossesse. Mm-hmm. Puis, la conclusion, c'est vraiment, il n'y a absolument aucun lien entre la prise de Tylenol pendant la grossesse et autisme, TDAH ou déficience intellectuelle. Il y avait les trois là, qui étaient investigués là-dedans. Donc, c'est vraiment, la réponse est très, très claire. Du côté de la science, il n'y en a pas de preuve là, que le Tylenol pourrait avoir quelque effet néfaste sur le développement c'est tout à fait sécuritaire.
Puis j'ai cru comprendre aussi qu'un des problèmes dans les recherches, c'était que c'est en vente libre. Donc c'est dur d'avoir un échantillon représentatif de gens quand tu peux l'acheter ou tu peux. Puis même dans certains cas, des dames, des femmes enceintes ou qui ont été enceintes et à qui on posait la question, avez-vous pris des médicaments? Puis ils répondaient non. Et quand on ajoutait Tylenol, ah ben oui, j'ai pris du Tylenol à tous les jours. Donc, c'est difficile de trouver qui vraiment associe Tylenol, si on ne peut même pas savoir vraiment qui en a pris ou pas. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas un principe de précaution? Moi, je me souviens clairement d'une infirmière quand ma conjointe était enceinte qui a dit, parce qu'on posait la question, est-ce qu'on peut prendre de l'Advil? D'ailleurs, l'Advil n'est pas recommandé. Est-ce qu'on peut prendre des Tylenol? Et elle avait dit, pour toutes ses réponses, le moins possible. L'Advil, non. Le reste, tu sais, si vous pouvez vous en passer, passez-vous-en. Mais une grosse fièvre, c'est pas mieux pour le fœtus non plus.
Exactement. Exactement. Donc, tu sais, puis en fait, les études là, qui trouvent certaines corrélations, en fait, c'est qu'ils ne distinguent pas. Donc, ils ne contrôlent pas pour le fait d'avoir eu une infection pendant la grossesse. Puis ça, le fait d'avoir eu une infection puis d'avoir de la fièvre, ça a des impacts sur le développement du fœtus, pas juste en termes d'autisme, là, ceci étant dit. Là, c'est des facteurs qu'en science, on appelle non spécifiques, là, c'est-à-dire que ça met à risque pour plein de conditions différentes. Ça nuit au développement du fœtus, en gros.
Bien, effectivement, c'est bien de le souligner parce que avoir une fièvre quand on est une femme enceinte, on ne l'a pas mentionné beaucoup, là, mais je sais que tout le monde le sait, c'est pas l'idéal, mais non seulement ça peut avoir un impact négatif sur le fœtus, là.
Oui, c'est ça. Donc, moi, ce qui me fait peur quand j'entends des choses comme ça, c'est qu'il y a des femmes qui vont rester avec leur fièvre et leur souffrance.
Oui, mais ça, des fois, j'ai de la misère un petit peu, là, Mme Courchan. En tout cas, de ce côté-là, là, je comprends qu'il y a des femmes qui sont plus vulnérables que d'autres, là, mais si vous êtes vulnérable au point de vous rendre malade puis de ne pas vous guérir, je ne sais pas, ça va être quoi la suite quand vous allez avoir un enfant dans les bras. Là.
Puis j'ai vu l'inverse, Mme Courchan. Hier, j'ai vu des femmes qui étaient tellement outrées, puis probablement juste pour répondre ou pour prouver un point que je ne comprends pas trop, mais qui ont dit, ben moi, je vais en prendre à tous les jours, puis je suis enceinte, puis tu sais, c'est... Là, on est, c'est pas mieux, là.
C'est ça. Puis je veux juste spécifier, tu sais, dans l'étude dont je vous parlais tantôt, là, il y avait aussi mesuré l'effet de dose. Donc, les gens qui en prenaient un peu, moyen, beaucoup, il n'y avait absolument pas d'effet de différence. Donc, bien sûr que quand on est enceinte, comme vous disiez, le but, c'est de minimiser le plus possible parce que on ne peut pas faire des études où on donne volontairement des choses aux femmes enceintes pour le tester.
Ben non, c'est ça l'affaire.
C'est pas éthique de faire ça. C'est ça. Donc, pour tout ça dans la grossesse, c'est pour ça qu'on dit, par exemple, l'alcool, ben non, prenez-en juste pas. Ouais. Parce que on ne sait pas, en fait, c'est quoi les doses minimales qui sont comme pas bonnes.
Mais en même temps, ce que vous me dites là, ça s'applique au Tylenol aussi?
Oui, sauf que là, ce qu'ils ont fait, tu sais, ce qui arrive, c'est que c'est en vente libre, puis que beaucoup, beaucoup de femmes en prennent, puis en ont pris, puis depuis des années et des années et des années. Donc, maintenant,
on suit sur les témoignages.
En
fait, l'étude dont je vous parlais, c'est pas des témoignages, c'est vraiment des données de santé publique. Il y a des pays où, pour la recherche, comme je pense que c'est aux Netherlands, Hollande.
Oui, les Pays-Bas.
Les Pays-Bas, puis.
J'en avais vu une en Suède aussi.
Les pays nordiques, il y a plusieurs pays comme ça où toutes les données, dans le fond, de santé, là, dans nos dossiers médicaux, ils sont accessibles pour la recherche. Donc, quand on voit des échantillons comme ça, là, le 185 000 femmes qui ont pris du Tylenol, ça représentait 7,4 % de toutes les femmes enceintes qui ont étudié. Donc, c'est énorme. C'est sur toute la population, en fait. Donc, c'est des bases de données qui sont pas reproduisables juste pour la recherche, parce que c'est vraiment toute la population qui est étudiée, puis on prend leurs données vraiment qui sont dans leur dossier.
Oui, c'est ça. Puis on en est convenu aussi que l'Advil, c'était pas hier quand on était enceinte. Juste mentionner, en fait, là, j'aimerais ça qu'on aille en plus en détail là, les stades à partir du moment où on est enceinte. Parce que des fois, on prend la grossesse, les 9 mois, mais il y a aussi, tu sais, moi, je suis ouverte à la nuance. Là, étant dit, il y en a peut-être pas toutes, comme vous le dites, depuis le début, puis je l'accepte aussi. Tu sais, je fais un peu l'avocat du diable, là, juste pour tester jusqu'où on peut aller avec le Tylenol. Mais est-ce qu'il y a des stades où... Moi, je pensais que ça n'existait pas vraiment des stades où...
plus risqué.
Bien, plus risqué, effectivement, merci. Est-ce qu'il y a des stades plus risqués, le stade 1, 2 ou 3, quand on est enceinte, ou ça aussi, il n'y a pas rien dans la lecture scientifique?
Ben, en lien avec le Tylenol, non, là, tous les stades, ils semblent vraiment pas avoir, tu sais, ça semble vraiment sécuritaire de
prendre peu importe.
Pour les autres médicaments, puis ça, effectivement, comme l'alcool, c'est un bon exemple, tu sais, on le sait qu'il y a certaines périodes qui sont probablement pires. Là, je connais pas cette littérature-là, fait que je veux pas m'avancer, mais.
OK, bien, je vais poser ma question différemment.
Il y a des moments où c'est pire, de prendre de l'alcool.
Ben, pourquoi d'abord on a sorti l'histoire du Tylenol? Tiens, on m'a posé la question différemment parce qu'on parle du Tylenol. Trump, il sort l'affaire du Tylenol, il dit qu'il se fie sur un rapport. Là, on dit que le rapport, il est moyen sérieux. Pourquoi on vise Tylenol? Pourquoi Tylenol?
C'est une excellente question. J'ai pas la réponse à ça. Je suis pas trop dans sa tête. Mais,
non, personne n'est là.
Mais il y a rien sur le plan scientifique, en tout cas, qui justifie ça. Je pense qu'il a promis d'avoir des réponses.
Okay.
Et ça, c'est une façon de donner une réponse assez simple, puis qui a pas trop de conséquences dans le sens de « Ah, il y a des femmes, oui, qui vont avoir... » Moi, je pense avoir des conséquences, mais c'est peut-être que lui, il se dit « Bon, c'est... » pas grave, on leur dit juste d'arrêter de prendre du Tylenol pendant la grossesse, ça change rien, tu sais, mais écoutez, je le sais pas.
Puis tu sais, on se parle, puis là, on a des auditeurs qui écrivent en direct, puis là, tu sais, il y a des gens qui sont encore sceptiques, puis c'est normal, là, quand on nous sort quelque chose comme ça, puis on veut le mieux, c'est notre bébé, tu sais, c'est quand même un sujet sérieux puis important, là, personne veut prendre quelque chose qui va faire en sorte que son bébé va être diminué ou dans une condition particulière le reste de sa vie, tu sais, puis je comprends ça, mais est-ce qu'au final, on pourrait se dire, comme on en prend le moins possible des médicaments, puis c'est tout, puis si vous avez une infection, allez donc voir votre médecin, là, tu sais, ça pourrait être aussi...
Dans la
précaution, là, tu sais, on peut y aller de même. Là.
Exactement. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que même la majorité des femmes enceintes ne prennent pas du Tylenol pour le plaisir pendant la grossesse.
Sauf depuis hier, j'en ai vu beaucoup. Oui,
c'est ça. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que les guidelines, les lignes directrices demeurent les mêmes. C'est de prendre vraiment au besoin puis de consulter notre professionnel de la santé pour s'assurer que la molécule qu'on prend, elle est sécuritaire. On peut suivre pour ça les recommandations. On est chanceux au Canada, là, c'est pas des gens comme RFK qui sont à la tête de Santé Canada et tout ça. Donc, on peut se fier sur les lignes directrices, par exemple, de Naître et Grandir, du CHU Sainte-Justine, de l'Institut national de la santé publique du Québec ou de Santé Canada pour ces choses-là. On va espérer que ça reste comme ça dans notre pays.
Madame Courchaine, il faut se quitter, mais rappelez-moi votre titre pour que je vous nomme comme faux.
Oui, donc je suis professeure adjointe au département de psychologie à l'Université de Montréal.
Voilà, vous l'avez fait vous-même, c'était Dr Valérie Courchaine. Merci beaucoup.
Merci,
au revoir.
Merci, au plaisir. 14h06, ça fait réagir au bout
oui,
encore. C'est l'enfer.
Ouais.
Là, tu sais, je veux dire... Dis-y qu'elle est menteuse! Ben non, ouais, non. Ben non, mais non, je veux dire, c'est une docteure. Là. Elle a étudié toute sa vie là, avec des gens qui sont atteints de cette condition-là. Fait que si vous y croyez pas, là, mettons, vous avez le droit dans un pays libre, là, ben je vais reprendre ce que j'ai dit. Là. Prenez-en pas de Tylenol, puis s'il y a quelque chose, restez pas avec de la fièvre pendant 8 jours.
Non, c'est pas bon. Non,
allez
mais
voir votre médecin.
Tu sais, les femmes enceintes, là, on perd pas notre intelligence. Là, on est capable là, d'être raisonnable et d'agir adéquatement. Là.
14h07, faut faire une pause, on vient.
Ayez confiance.
Ayez confiance.
En direct.
Ah, de quoi?
Petite pause. On revient dans pas long.
Radio X.